Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net sur internet. C'est la dernière émission de cette saison déjà. Je suis absent samedi prochain et après c'est la pause estivale. Donc pour ce 15 juin, c'est la dernière émission. Alors on va pas faire de best-of. Des fois je tombais dans la facilité du best-of en essayant de voir un petit peu quels étaient les articles intéressants au cours d'année, mais il y a tellement de choses au niveau de l'actualité scientifique que finalement, j'ai encore pas mal d'articles que je n'ai pas eu le temps d'évoquer lors des précédentes émissions et que nous allons pouvoir étudier dans cette émission d'aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous animer cette émission. On essaye un petit peu toutes les semaines sur l'antenne de Graphite de s'arrêter pendant une heure et de comprendre, de découvrir, de savoir ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier. On s'intéresse aux articles qui sont diffusés. Vous avez des sites internet, j'en parle assez régulièrement, qui sont très bien faits, qui vous permettent de vous tenir informé. Moi j'aime particulièrement Futura Science parce que je trouve que c'est un site internet qui aborde pas mal de thématiques et les articles sont assez courts dans le sens vraiment abordable et ça nous permet d'être informé sur pas mal de sujets. Vous avez également des revues de vulgarisation scientifiques, Sciences et Avenir, Sciences et Vie, qui ont des sujets plus approfondis, qui sont intéressants également à lire, à découvrir. Et puis dans ces revues, il y a aussi des petites brèves qui sont aussi intéressantes parce que elles abordent la science d'une façon un petit peu, insolite, mais aussi toujours intéressante, bien évidemment. Et donc, ça me donne de la matière pour ces émissions que je vous présente depuis maintenant pas mal d'années, bien évidemment, sur l'antenne de Graphite. Nous sommes donc le 15 juin, c'est la journée mondiale du vent et de l'énergie éolienne. C'est la Global Wind Day. Je me serais encore risqué à parler anglais dans cette émission. Journée mondiale du vent et de l'énergie éolienne. Alors, effectivement, le vent permet de produire de l'électricité avec ces fameuses éoliennes. D'un point de vue technique, c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on est sur l'énergie renouvelable. On est aussi sur une énergie intermittente. C'est intermittente, c'est-à-dire, bien sûr, pas de vent, pas de production d'électricité. Il faut aussi savoir que s'il y a trop de vent, il n'y a pas aussi de production d'électricité parce que les éoliennes fonctionnent selon dans un intervalle de vitesse du vent assez bien défini. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il ne faut pas croire qu'à partir du moment où il y a énormément de bourrasques, on va se dire « génial, on va pouvoir produire encore beaucoup plus d'électricité ». Ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment. Donc, d'un point de vue technologique, c'est vrai que c'est assez intéressant. Après, on sait très bien que les éoliennes font débat en termes de... pas nécessairement, peut-être agréable à regarder. Après, c'est une vraie question de savoir si, effectivement, c'est une alternative... Je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Je suis désolé, excusez-moi. Ah, mais ça, c'est les aléas de ce genre d'émission, c'est qu'on ne contrôle toujours pas tout. Donc, je vous disais, oui, effectivement, les éoliennes, c'est pas toujours... d'un point de vue technologique, c'est efficace, bien évidemment, parce qu'on est quand même sur du vent qui, quelque part, ne coûte rien, et on peut l'utiliser pour pouvoir produire l'électricité. Donc c'est vrai que ça a du sens et que c'est quelque chose qui est maintenant bien maîtrisé. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est bien accepté? Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, bien évidemment. Mais la part de l'éolien est finalement... pas nécessairement important, en tout cas en France, en termes de production d'électricité, et que la question de savoir si on souhaite en produire plus avec les éoliennes, techniquement c'est possible, en termes d'acceptation, effectivement, c'est pas toujours évident, parce que les éoliennes, on les aime bien quand c'est chez le voisin, en clair. Donc c'est un vrai sujet, bien évidemment. En tout cas, aujourd'hui, journée mondiale du vent et de l'énergie éolienne. Le 15 juin 1667, Jean-Baptiste Denis effectue la première transfusion sanguine avec le sang d'un agneau en 1667. c'est quand même assez fascinant. Benjamin Franklin, il invente le paratonnerre le 15 juin 1752. Tiens, Benjamin Franklin, nous à Graphite, on connaît bien parce que les locaux de Graphite sont dans le bâtiment Benjamin Franklin de l'Université Technologique de Compiègne. Donc, c'est un nom qu'on voit très souvent indiqué sur les panneaux, mais ça nous permet voilà, de mentionner que Benjamin Franklin invente le paratonnerre en 1752. Et en 1988, c'est Ariane 4 qui effectue son premier lancement le 15 juin 1988. Alors, on a évoqué il y a 15 jours, je crois, le fait qu'Ariane 6 devrait bientôt, alors j'ai pas les dernières informations, mais devrait bientôt décoller, depuis longtemps qu'on attendait, hein, ça fait maintenant presque 4 ans de retard, mais voilà, Ariane 6 c'est en 2024, et donc Ariane 4 c'était en 1988. Naissance le 15 juin 1755 d'Antoine François Fourcroy, c'est un médecin et chimiste français, il a collaboré avec Lavoisier, il fut apôtre et historien de la révolution chimique. Il était homme politique, hein, il a été nommé par Napoléon Bonaparte au Conseil d'État en 1799 et à la Direction générale de l'instruction publique en 1802. Antoine François Fourcroy, né donc un 15 juin. Décès le 15 juin 1905 de Karl Wernicke, neurologue et psychiatre allemand. Il est avec Paul Broca un précurseur de la recherche sur les localisations cérébrales par l'aphasiologie. C'est une figure de la neurologie en général et aussi de la neuropsychologie en particulier. Et donc les travaux de Karl Wernicke en psychiatrie qui ont été longtemps délaissés, eh bien ils fondent la classification la plus valide des psychoses endogènes. Donc au niveau donc, de la psychiatrie, de la psychologie, Karl Wernicke qui est donc décédé un 15 juin 1905, a toute sa place. Et à l'occasion de cet éphéméride, c'est vraiment toujours l'occasion de pouvoir nous arrêter très ponctuellement, très rapidement, sur ces scientifiques qui ont parfois ont leur nom qui est passé à la postérité, ou un peu moins, mais ça nous permet voilà, de nous arrêter sur certaines informations de l'époque. C'est bien aussi d'avoir un petit peu le côté historique quand on parle de science, bien évidemment. Alors, première information que je voulais évoquer, que je n'avais pas encore évoquée, mais c'est assez intéressant, c'est la découverte d'un alliage métallique assez intéressant. La composition de ce nouvel alliage, c'est du niobium, du tantal, du titane et du lafnium. Alors, je vous épargne un petit peu ce que c'est que tous ces métaux, mais on les réunit tous les trois, on en fait un alliage. Et les propriétés mécaniques de ce nouvel alliage ont véritablement fait bondir les scientifiques parce que ce métal présente en effet une très forte résistance à la fracturation et cela même pour une très vaste gamme de températures parce que, ce qui est quand même assez intéressant, cet alliage présente une stabilité totalement étonnante. Pour des températures extrêmes, ça peut aller de moins 196 degrés, donc on est sur quand même du froid très intense, jusqu'à 1200 degrés. On est quand même sur de la chaleur extrême. Eh bien, dans ce panel-là, on a un alliage qui est totalement résistant et qui est totalement stable. Ce sont des propriétés qui n'ont jamais été vues auparavant. Les chercheurs pensaient même être à la limite du possible. Et cet alliage fait partie d'une nouvelle classe de métaux qu'on appelle les alliages réfractaires à entropie élevée ou moyenne. La spécificité de ces alliages est qu'ils sont constitués d'au moins 5 métaux en des proportions relativement similaires. Contrairement aux alliages plus classiques qui se composent habituellement d'un métal principal et puis on va ajouter des petites quantités d'autres éléments. Là, on est sur des alliages avec des métaux en quantité à peu près équivalente. C'est ça qui est assez intéressant et cette composition donne à ces alliages une structure particulière qui assure une très forte stabilité du solide, ce qui donc leur donne des propriétés mécaniques très intéressantes. Alors habituellement, si ces alliages présentent une dureté importante, ils sont toutefois très cassants, c'est-à-dire très peu résistants à une contrainte par compression. Et c'est là que ce nouvel alliage a créé la surprise, parce qu'il s'avère être en effet 25 fois plus résistant à la fracturation que les autres alliages à peu près similaires. Et cela pour des températures ambiantes, hein, de l'ordre de 25 degrés par exemple, mais également pour des températures bien plus extrêmes, comme on l'a dit. Et habituellement, les matériaux deviennent de plus en plus cassants à mesure que la température va décroître. Et ça, ce n'est pas le cas de cet alliage dont je vous épargne la composition, parce que dans l'article, on nous met la composition, et là, c'est totalement illisible, donc je ne vais pas me risquer à le dire, mais en tout cas, sa structure cristalline lui permet en effet d'empêcher la propagation des fractures, même dans l'extrême froid, c'est-à-dire à moins 196 degrés Celsius. Les résultats de tous ces tests ont été publiés dans la revue Science. Alors, il y a de nombreux tests qui sont encore nécessaires pour cerner toutes les propriétés de cet alliage, mais il trouvera sans doute de très nombreuses applications, notamment dans les domaines de l'aéronautique et du spatial, qui demandent bien sûr des matériaux de haute résistance sur de larges gammes de températures. Mais voilà, on ne lui a pas donné de nom encore, hein, on a une composition chimique totalement illisible, mais cet alliage aux propriétés totalement incroyables va véritablement apporter des solutions très intéressante donc dans des conditions extrêmes, et donc notamment au niveau de l'aéronautique et du spatial. Donc ça, voilà, c'était un article que j'avais pas eu le temps d'évoquer, qui date du mois de mai, je crois. Mais voilà, je me suis dit, il faut à tout prix que j'en parle dans cette émission avant de clore cette saison. Autre chose, et alors là, c'est un autre sujet, je ne savais pas que ça existait. Il y a des chercheurs danois qui ont annoncé un outil pour le moins insolite. Ça date déjà du décembre dernier, et ils viennent de tirer la sonnette d'alarme sur des sites qui détournent leurs recherches. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, ces scientifiques, ils ont créé une intelligence artificielle qui s'appelle Live2Vec, et cette intelligence artificielle prédit la date de décès en se basant sur les événements de la vie et des outils statistiques, avec un taux de réussite de 78%, donc on n'est pas sur un taux 100%, mais on est quand même sur un taux quand même assez intéressant. Et l'outil est basé sur une étude auprès de 6 millions de Danois. Les résultats avaient été publiés dans la revue Nature Computational Science. C'est donc un outil assez, comment dire, d'un point de vue technique, totalement fascinant. D'un point de vue de l'application, un petit peu, je ne sais pas, un peu bizarre quand même de pouvoir prédire une date de décès. Mais ce qui est intéressant, en tout cas dans cet article, c'est que les chercheurs alertent sur de faux outils qui se font passer pour cette version d'intelligence artificielle, en portant des noms comme par exemple All Death Calculator. En fait, si on tape Live2Vec, qui est donc le nom de cet outil créé par ces chercheurs danois, si on tape Live2Vec sur Google, eh bien les résultats qu'on a sont faux. Les chercheurs signalent également la présence de faux comptes sur les réseaux sociaux, parce que l'outil est basé sur un grand nombre d'informations personnelles, et donc les chercheurs ont préféré ne pas le mettre en ligne pour l'instant. Donc les versions qui sont mises en ligne sont des faux, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont créé des faux pour pouvoir collecter vos données personnelles. Et sous prétexte de calculer la date de décès des utilisateurs, eh bien, ces outils contrefaits posent des questions très personnelles, tentent également d'obtenir des adresses mail, des numéros de téléphone, des numéros de carte bancaire, et peuvent même infecter les ordinateurs avec un virus. Et les chercheurs sont formels. Il n'y a pas de version de leur outil qui soit accessible au grand public. Donc, si vous tombez sur des outils qui vous prédisent, des outils de calculatrice de votre mort, quelque part, et qui vous prédisent la date de votre mort, ce sont des faux outils. Faites attention, soyez vigilants. Et voilà, ces chercheurs danois ont voulu tirer la sonnette d'alarme parce qu'ils se disent « Attention, attention, on est en train de prendre comment dire, d'utiliser cet outil et de le diffuser à grande échelle. Or, ce n'est pas du tout quelque chose qui est vrai, qui est fiable et qui n'est pas du tout l'outil original. Donc, pour l'instant, vous ne trouverez pas sur Internet de calculatrice de la date de la mort. En tout cas, ce qui existe, ce sont des fake news, évidemment. On ne s'en sortira jamais de ces fake news, ce n'est pas possible. Voilà. Deux articles que je souhaitais évoquer dans cette dernière émission de cette saison. On a aussi un peu de musique, bien sûr. Hein. Biotine, ça a toujours été de la science et de la musique. Donc, on écoute un peu de musique, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Et on se retrouve juste après.
Bascule à Uri. vers le septième ciel. On trouve un ciel triste où un monsieur à chapeau dit à nous, mes chers touristes, ici vous seriez nous trop.
Royal Cadet, c'était Stunt Horse sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. On va continuer un petit peu à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Je trouvais cet article assez intéressant concernant les plastiques. Hein. D'un point de vue environnemental, on le sait que le plastique a pas mal de défauts. Il est, d'un point de vue historique, fabriqué à partir de ressources fossiles, bourré d'additifs en tout genre. Ces déchets s'accumulent en plus dans la nature. La production ne ralentit pas. Il faut aussi un temps parfois infini pour se dégrader et les experts s'attendent à ce que des milliers de millions de tonnes de déchets plastiques soient produites d'ici 2050. Parmi les solutions envisagées, il y a les bioplastiques. Alors, bioplastique, tiens, on se dit que ça doit être sympa, bio. Si c'est bio, c'est que c'est bon. En fait, ça cache deux réalités. Un bioplastique, ça peut désigner un plastique biosourcé, c'est-à-dire qu'il a été produit à partir de la biomasse et non plus à partir du pétrole. Et puis, autre chose, le bioplastique, ça peut aussi se rapporter à un plastique biodégradable, c'est-à-dire que lui, il est fabriqué à partir de pétrole, mais il doit pouvoir se dégrader en éléments simples dans certaines conditions. Tout ça fait qu'à ce jour, les bioplastiques ne règlent pas réellement le problème, parce que ces plastiques, même s'ils sont biosourcés, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine biomasse et non pas pétrole, ça continue de finir dans la nature, où ils sont aussi néfastes que ceux qui sont produits à partir du pétrole. Et lorsqu'ils sont présentés biodégradables, c'est souvent pour l'heure dans des conditions tellement particulières qu'ils ne se dégradent en rien dans la nature. Il y a des chercheurs de l'Institution d'océanographie des États-Unis qui ont d'ailleurs récemment rapporté dans la revue PLOS ONE comment ils ont observé des bioplastiques qui sont restés plus d'un an dans l'océan sans se dégrader du tout. Donc effectivement, c'est pas si bio que ça, entre guillemets. Doit-on comprendre qu'en matière de plastique, c'est l'impasse ? Eh bien, pas forcément, parce qu'il y a des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego, donc aux États-Unis, qui proposent aujourd'hui une solution innovante qui a été présentée dans la revue Nature Communications. Il présente une nouvelle forme de polyuréthane thermoplastique. Alors classiquement, ce plastique durable et souple se retrouve notamment dans les chaussures, dans les tapis, dans les coussins. Et celui que les chercheurs ont développé a ce site particulier qu'il est, pour ainsi dire, vivant. C'est ce que nous dit cet article de Futura Science. Un plastique vivant, c'est assez étonnant. Pour arriver à leur fin, les chercheurs ont mélangé à des pastilles donc de ce polyuréthane thermoplastique des spores d'une bactérie qui est capable de décomposer les plastiques. Alors les spores, c'est en fait une forme un peu dormante d'une bactérie qui est utilisée aussi dans les probiotiques et qui est réputée sans danger pour les humains et pour les animaux, et même potentiellement bonne pour les plantes, parce que on se dit que ça peut être une bonne forme. Et donc, ils ont, excusez-moi, ils ont conçu cette espèce de plastique vivant en mélangeant donc ce polyuréthane thermoplastique avec ces bactéries. Ils ont fait des fines bandes de ce plastique pour pouvoir tester la biodégradabilité de ce plastique. Et donc, on a placé ces bandes dans un compost maintenu à 37 degrés et sous une humidité tournant autour de 50%. L'eau et les nutriments contenus dans le compost ont fait germer les bactéries. Et celles-ci, elles ont donc pu réduire, parce qu'elles ont dégradé le plastique, en 5 mois seulement à 90%. On les a réveillées, les bactéries qui étaient dans le plastique, et puis du coup, elles se sont réveillées. Elles ont dit, tiens, si on mangeait quelque chose, on va manger le plastique, il est là. Parce qu'elles mangent le plastique. C'est quand même assez, un appétit assez particulier. Et tout ça, on n'a pas utilisé d'autres microbes. Et donc, c'est une... pour ça qu'on l'appelle le plastique vivant, parce que ces bactéries, on les a réveillées, elles sont vivantes, et elles ont pu consommer ce plastique. Il s'avère que les spores donc, de cette bactérie qui s'appelle Bacillus subtilis, ces spores se comportent comme des charges qui renforcent justement le polyuréthane thermoplastique. C'est un petit peu comme des barres d'armature dans le béton. Donc, ce plastique biodégradable et vivant proposé par les chercheurs Université de Californie, il demande un peu plus de force pour pouvoir être cassé et il présente en même temps une caractéristique assez intéressante qui est l'extensibilité. Ça veut dire en clair qu'on a un plastique souple qui peut être tendu, mais c'est un plastique qu'on ne peut pas casser. Donc c'est assez intéressant au niveau des propriétés mécaniques, bien évidemment. Reste tout de même aux chercheurs à étudier dans le détail les produits de la dégradation de ce nouveau plastique par les bactéries, puis à optimiser l'approche pour une production à l'échelle industrielle. Ils espèrent non seulement réussir à produire ce plastique biodégradable par kilo et faire encore évoluer leurs bactéries pour qu'elles décomposent le plastique plus rapidement, parce que là, on le décomposait en 5 mois, mais surtout d'étendre la méthode à d'autres types de plastiques, effectivement, parce qu'on pourrait faire d'autres composites, d'autres plastiques vivants qui auraient des propriétés mécaniques peut-être encore plus intéressantes et qui pourraient se dégrader de façon encore beaucoup plus rapide et efficace. Donc, voilà, on parle de plastique vivant. C'est la première fois, je pense, dans cette émission qu'on parle de plastique vivant. Et on se souviendra que c'est dans cette émission du 15 juin 2024 qu'on a parlé de plastique vivant dans cette émission. Et parce que l'application, elle est totalement intéressante, bien évidemment. On va dire, si on arrive à avoir quelque chose qui peut être produit à grande échelle et avoir ces plastiques performants et qui se dégradent automatiquement, alors là, effectivement... on est sur une solution plutôt intéressante, bien sûr, parce que pour l'instant, au niveau plastique, c'est assez à la fois catastrophique, mais totalement alarmant de voir dans quel état nous allons rendre cette planète, en fait. Je ne sais pas du tout. Mais au niveau plastique, c'est assez étonnant. On avait, je ne me rappelle plus des chiffres, mais évoqué dans une émission du mois d'avril, je crois, le nombre de plastique qui est déversé dans la mer par jour. Je ne sais plus, je restais l'équivalent d'un camion, mais je ne suis même pas certain du chiffre. Mais enfin, c'était totalement affolant, bien évidemment. Allez, on part dans l'espace avec la coopération spatiale entre le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et l'Agence Spatiale Chinoise. Une coopération qui nous emmène désormais jusqu'à la Lune. Parmi d'autres instruments internationaux, la mission chinoise Change 6 embarque le détecteur de radon qui était développé à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie de Toulouse. Les mesures vont permettre de tracer la présence d'uranium. Et oui, la France part à la recherche d'uranium sur la Lune. Le radon, c'est un gaz qui provient notamment de la désintégration de l'uranium-238 dans le sous-sol de la Terre et de la Lune. Il s'en échappe grâce à des micro-séismes et au bout de 5 jours d'existence, le radon se désintègre à son tour, devenant du polonium, ce qui libère des particules alpha. Et ce sont ces particules qui sont détectées par ce détecteur de radon à l'aide des cellules qui sont installés sur ce détecteur. Les mesures prises par ce détecteur compléteront celles prises en orbite par des missions Apollo, mais avec une bien meilleure précision, parce que là, on va être directement ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire sur place. Ainsi, on aura une meilleure connaissance du cycle du radon et du transport des gaz, dont la vapeur d'eau sur la Lune. La Lune qui n'a pas d'atmosphère, rappelons-le, et donc la détection durera toutefois seulement une 30aine d'heures, car les opérations de prélèvement d'échantillons par la mission chinoise Change 6 dureront 2 jours tout au plus. L'instrument a été réalisé en 3 ans et demi, ce qui est un temps record pour un instrument inédit dont le développement dure généralement entre 5 et 10 ans. Donc effectivement, là, c'est quand même assez une prouesse assez intéressante. De plus, les interactions entre les équipes chinoises et françaises ont été fortement bousculées par la crise du Covid, mais aussi par la barrière linguistique, nous dit-on, et enfin par le choix tardif du site d'atterrissage, parce que les Chinois ne savaient pas encore précisément où est-ce qu'ils allaient atterrir. Le design de l'architecture thermique a dû être le plus flexible possible et l'équipe française a dû parier sur son design d'interface entre l'instrument et l'atterrisseur, faute d'informations côté chinois. Ça collabore, mais ça communique peut-être pas aussi bien, de façon aussi efficace qu'on le souhaiterait. En tout cas, il y a des corrections de code qui ont été apportées à l'intégration. Pour la première fois, une partie de l'équipe assistera pendant un mois aux opérations de Change 6. Ça s'est passé début juin sur la Lune, mais c'est assez intéressant. Alors, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est une collaboration France-Chine. Ça peut être intéressant de voir les débouchés qu'il peut y avoir. Et aussi, l'autre chose, c'est de pouvoir détecter du radon à la surface de la Lune, sur la face cachée. On se rappelle que les Chinois partent du côté caché de la Lune pour essayer d'en savoir un petit peu plus là-bas, bien évidemment. Allez, on va écouter un autre titre, je pense, sur l'antenne de Graphite, et puis on va continuer comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Love, it's not love, Holy Hive sur l'antenne de Graphite. Vous êtes bien sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, soit en direct, soit en différé avec les podcasts que vous pouvez bien sûr récupérer de l'ensemble des émissions de Graphite. On était dans l'espace, on va y rester avec les États-Unis. L'annonce du contrat portant sur de la recherche a été publiée par une start-up qui s'appelle Gravitix. Cette start-up développe un prototype nommé StarMax. Le StarMax, c'est un diamètre de à peu près 7 à 8 mètres et un volume de 400 mètres cubes. En fait, ça fait 40% du volume total de l'actuelle station spatiale internationale. Et l'US Space Force, qui est le bras spatial du Pentagone, recherche ardemment toute technologie lui permettant d'être plus réactif dans ses opérations spatiales. Le Pentagone souhaite pouvoir réagir très vite en cas de menace dans l'espace, comme l'arrivée d'un missile ou d'un satellite ennemi sur ses satellites. La Russie et la Chine sont souvent identifiées comme des menaces sur les satellites militaires américains, avec des satellites espions, des patrouilleurs ou même un satellite zombie. Et donc le Pentagone avait commandé l'année dernière à deux compagnies américaines un test de mission à haute réactivité qui fut un succès. Et c'est sans doute là que se porte l'intérêt de l'US Space Force sur les technologies donc de cette start-up Gravitix. Somme toute, un module de station peut servir à pas mal de choses, notamment d'être encore plus réactif que sur Terre. Pourra-t-on voir un jour une station spatiale militaire américaine en orbite? C'est toute la question, en fait. Les forces armées lorgnent toujours plus vers l'orbite pour y réaliser des expériences en microgravité, ne pouvant donc pas être faites, bien sûr, sur Terre. Mais elles ne peuvent pas le faire dans le cadre de programmes civils, comme la Station spatiale internationale. Et donc, l'idée, c'est de se dire... Tiens, si on faisait une station spatiale militaire, comme ça on pourra faire des expériences militaires, c'est un peu toute la question. L'armée italienne avait déjà fait voler tout un équipage en suborbital avec Virgin Galactic et avait même envoyé un des siens passer quelques jours dans la station spatiale internationale. Mais là, c'est une vraie question. Est-ce que les États-Unis préparent une station spatiale militaire ? Le fait d'avoir ce contrat qui a été annoncé entre le Pentagone et cette start-up américaine qui développe des modules de station spatiale, ça pose clairement la question. Et bon, on le saura bientôt, hein. On sera sûrement informé assez rapidement. Mais c'est une vraie question, effectivement, de cette station spatiale militaire. Allez savoir, on suivra ça. Deux articles que je voulais évoquer maintenant qui concernent la médecine et précisément le cerveau. Il y a deux choses, en parallèle. Alors, je vais peut-être commencer par celui-ci. Cet implant cérébral, le plus petit implant cérébral du monde. Il fait tout juste la taille d'un pois, d'un petit pois. Il pourrait révolutionner le traitement de certaines pathologies. Alors, il s'appelle DOT. Je ne vais pas rentrer dans l'anglais, on va dire qu'il s'appelle DOT, c'est le dernier né des ingénieurs de l'université Rice. C'est aussi le plus petit stimulateur cérébral implantable jamais testé sur un patient humain. Donc c'est un petit bijou, un tout petit bijou qui pourrait par exemple révolutionner le traitement de la dépression résistante aux médicaments et offrir une alternative thérapeutique moins invasive et une plus grande autonomie aux patients que les thérapies actuelles. C'est ce que se félicitent les chercheurs dans un communiqué. Les implants traditionnels pour la stimulation du cerveau sont souvent alimentés par des grosses batteries qu'on situe ailleurs dans le corps. C'est connecté au dispositif de stimulation avec des fils. Enfin bref, c'est quand même pas extraordinaire. En outre, ils sont généralement placés à l'intérieur du cerveau, ce qui nécessite une intervention chirurgicale invasive et donc lourde. Rien de tout cela avec donc ce petit implant DOT qui utilise une technologie spéciale appelée transfert de puissance magnétoélectrique. Elle convertit de façon assez efficace les champs magnétiques en impulsions électriques. Et pourtant, il ne fait que 9 mm de largeur, c'est quand même assez petit, et ça fonctionne bien. Il est alimenté sans batterie par un émetteur externe, et DOT peut fonctionner et envoyer des signaux électriques au cerveau sans avoir besoin d'être connecté à une source d'alimentation par des fils. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus... peu plus efficace. En outre, le dispositif est conçu pour stimuler le cerveau à travers la dure-mère, qui est une membrane protectrice située à l'extérieur du cerveau et rattachée à la base du crâne. Et en utilisant cette technologie, le dispositif peut envoyer des signaux de stimulation du cerveau sans avoir besoin d'être placé à l'intérieur du cerveau. C'est ça qui est assez fascinant. Dans un article qui a été publié dans la revue Science Advances, les chercheurs ont annoncé avoir testé pendant 30 jours et avec succès le dispositif chez des cochons. Ils ont ensuite effectué un essai temporaire chez un patient humain afin de stimuler son cortex moteur, ce qui a entraîné un mouvement de la main. DOT devrait pouvoir être utilisé à domicile avec une procédure d'implantation minimale de 30 minutes, nous dit-on, et un contrôle complet par le patient sur le traitement administré. Le développement thérapeutique est en cours avec des essais cliniques à long terme sur des humains. Tout ça doit être en cours d'approbation par la FDA, qui est l'agence américaine qui va délivrer justement le droit de pouvoir faire les expérimentations sur l'homme. Mais voilà, ce petit implant cérébral, le plus petit implant cérébral du monde qui pourrait véritablement révolutionner la médecine en termes d'efficacité et en termes d'acceptation. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui serait beaucoup plus facile à supporter pour les patients. Voilà, ça c'est le premier article sur le cerveau. Le deuxième, la cryogénisation, hein, ça fascine depuis 2 siècles évidemment. Et bien pour la première fois, il y a des chercheurs de l'université de Shanghai qui ont annoncé dans un article publié dans la revue Cell Reports Method, ils ont réussi à avoir ramené à la vie des tissus cérébraux humains qui avaient été congelés. Je reprends la phrase, il y a des scientifiques qui ramènent à la vie des mini-cerveaux humains congelés. Ce sont des petits organes, donc on appelle ça des organoïdes, fabriqués en laboratoire, qui ont bénéficié d'une recette bien particulière, qui est composée de plusieurs aliments, d'ingrédients, pardon, je vais y arriver, pour pouvoir justement faire en sorte que ça puisse bien se passer. Il y a de la méthylcellulose qui aide à maintenir la structure des cellules, de l'éthylène glycol et du DMSO, en fait ça va protéger les cellules pendant la congélation, et un autre ingrédient qui réduit la mort cellulaire. Et au cours du processus de congélation-décongélation, eh bien ces organoïdes, ces mini-cerveaux ont été plongés dans un mélange avec ces 4 ingrédients. Ils ont été congelés rapidement, puis décongeler lentement afin d'éviter les dommages. Et résultat, les cellules fonctionnaient aussi bien à l'issue de processus qu'avant d'être congelées. Et la structure de ces mini-cerveaux était bien préservée. C'est un véritable exploit qui pourrait permettre d'économiser du temps, de l'argent, des ressources en produisant de grandes quantités d'organoïdes d'un coup. Alors les chercheurs espèrent que cela permettra la création d'une banque de mini-cerveaux afin d'étudier les maladies neurologiques comme l'épilepsie ou Alzheimer. En outre, les organoïdes conservés pourraient être utilisés pour tester de nouveaux médicaments de manière fiable. Et donc, à terme, ces mini-cerveaux pourraient même aider à préparer des greffes de tissus cérébraux afin de réparer les dommages causés par des blessures ou des maladies. Alors, est-ce que c'est une méthode efficace au point de pouvoir conserver un corps entier ? C'est bien sûr un peu trop tôt pour le dire, mais la nouvelle devrait tout de même ravir pas mal d'amateurs de caissons de congélation. Hein. On pense à Hibernatus, bien sûr, mais c'est une information totalement fascinante de ces scientifiques qui ramènent à la vie des mini-cerveaux humains qui étaient congelés. Ça a donc été annoncé il y a quelques jours et ça nous vient de Shanghai, mais ça c'est affaire à suivre bien sûr, parce que je trouve l'information totalement fascinante. Je vous laisse réfléchir sur ce sujet en écoutant Sei Shishi sur l'antenne de Graphite. We'll be right back. Reelings était Say She She sur l'antenne de Graphite. On continue de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique avec bon, des informations très troublantes, intéressantes, qui ouvrent énormément de perspectives. C'est ce qu'on vient de voir avec ces mini-cerveaux qu'on a congelés, décongelés, et ça fonctionne. Mais il y a parfois quand même des annonces un peu dérangeantes, et notamment cette invention la plus dérangeante de l'année, c'est celle d'Hachem Al-Ghaili qui vient de dévoiler son dernier projet qu'il appelle Brain Bridge. Il s'agit d'une machine entièrement pilotée par l'intelligence artificielle et capable de réaliser des greffes de tête. C'est dans une vidéo qu'on peut voir ça, et ça a été relayé par Futura Science. L'homme présente son système complet dans une vidéo. Alors pour l'instant, c'est qu'au stade de concept. Hein. Hachem Al-Ghaili, on en a déjà parlé, c'était il y a 2 ans, 2022. Il avait créé Ectolife, c'est-à-dire des capsules automatisées pour remplacer la grossesse. Et donc là, il présente son nouveau projet, Brain Bridge, qui doit permettre à des personnes souffrant de paralysie, de cancer ou de maladies neurodégénératives d'échanger leur corps contre celui d'un donneur en état de mort cérébrale. Et donc les deux corps reçoivent une solution de plasma artificiel, ils sont refroidis à 5 degrés, puis les deux têtes sont détachées. La machine analyse l'emplacement des nerfs et des muscles afin de les reconnecter sur le nouveau corps. Un implant est ajouté au point de fusion de la colonne vertébrale afin de faciliter la formation de connexions neuronales avec le nouveau corps. La machine peut également effectuer une transplantation du visage et du cuir chevelu. Et après l'opération, eh bien le patient est placé dans le coma pendant un mois afin d'éviter tout mouvement. Au réveil, le patient devra suivre une physiothérapie intensive pour apprendre à utiliser son nouveau corps. Et pendant ce temps, il y a un bandeau relié à un implant qui lui permettra de communiquer avec son entourage. Alors la vidéo, elle est relativement détaillée, mais elle laisse quand même de nombreuses questions sur les technologies évoquées, dont beaucoup n'existent pas encore ou sont loin d'en être à ce stade de développement. Par exemple, l'implant cérébral Neuralink, on en avait déjà parlé, n'a encore été testé que sur une seule personne. Il y a d'autres projets d'interface cerveau-machine qui ne détectent qu'un faible nombre de mots. Quant à la greffe de tête, eh bien, le chirurgien italien Sergio Canavero avait annoncé par le passé que ce serait possible dès 2017. On en avait parlé dans cette émission également, mais pour l'instant, l'opération n'est effectuée que sur des cadavres. Donc, ça pose vraiment question de ce Brain Bridge, hein, ce concept qui mélange science et science-fiction. Mais voilà, une machine qui permettra à des patients de changer de corps. Il y a des moments où on n'arrive plus à suivre, en fait. Hein. Objectivement, je ne sais plus. Mais enfin, regardez Brain Bridge sur Internet et vous devrez trouver, je pense, quelque part, cette vidéo et puis ce concept. Puis bon, après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Hein. Chacun est libre, il n'y a pas de problème. On va parler de radio. Tiens, j'ai trouvé cet article, je n'avais pas entendu parler, je trouvais ça assez étonnant. Des grésillements étranges, des bourdonnements, puis l'énonciation sinistre de prénoms et de chiffres en russe. Et puis encore d'autres sons mystérieux, parfois inquiétants. C'est depuis les années 1980, une curieuse séquence est émise par une radio russe baptisée MDZHB sur une fréquence spécifique. Pour quelle raison ? Ben, personne ne le sait vraiment. De même, il est impossible de savoir qui gère cet émetteur qui se trouverait apparemment non loin de Saint-Pétersbourg. Cette radio diffusée en ondes courtes fascine depuis longtemps les amateurs radio qui la traque depuis des années et parviennent parfois à en capturer les séquences mystérieuses. Son impénétrable objectif est également l'objet de nombreuses théories du complot. Est-ce qu'il s'agit de communication militaire ? Est-ce que c'est un module codé, oublié et resté actif depuis la chute du bloc soviétique ? Est-ce que c'est un système permettant de lancer automatiquement une riposte nucléaire si cette séquence s'arrête ? Il y a une autre théorie qui considère que le procédé permettrait de tester l'épaisseur de la ionosphère, quand d'autres suggèrent que c'est un système de communication avec des extraterrestres, rien que ça. Alors, ça date depuis 40 ans hein, quand même, hein. Alors que cette fréquence date de la guerre froide, elle n'a jamais cessé et son activité s'est même amplifiée lors de ces dernières années. La diffusion de cette station fantomatique sur ondes courtes permet aux émissions d'aller beaucoup plus loin, de pénétrer dans les bâtiments. C'est ce type d'ondes qu'utilisent les militaires pour certaines communications de leurs navires et de leurs aéronefs. La nuit, ces ondes s'élèvent en altitude et le jour, elles se rapprochent du sol et justement, la diffusion des messages se produit essentiellement durant la journée. Pour les experts, en raison de la fréquence et de l'émetteur de 20 kW, de celui de 5 kW en cas de panne et de la configuration de l'antenne, il s'agit forcément d'une configuration militaire. Cela pourrait bien être une station de chiffrement utilisée pour communiquer des messages cryptés à des espions ou à d'autres agents russes, mais contrairement à d'autres stations ayant déjà été employées par d'autres pays, son fonctionnement reste atypique. Habituellement, en fait, ce type d'émission débute par un indicatif d'appel. Mais dans le cadre de cette radio, il n'y a qu'un bourdonnement entre les séquences des messages qui sont émis à des moments totalement aléatoires. Cela pourrait être également une façon de maintenir cette station active afin de pouvoir l'utiliser en cas d'urgence si les autres moyens de communication ne sont plus opérationnels ou détruits. Alors il y a le site Prium qui a analysé et enregistré les séquences. La fonction militaire de la radio est pourtant claire. Le site Prium explique même que l'émetteur serait géré par les 60 et 69e centres de communication militaire de Sudak en Russie. Le matériel serait très ancien d'après le site. Tu m'étonnes, ça date depuis 40 ans. En tout cas, la radio a attiré l'attention l'année dernière, en janvier 2022, soit un mois avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Elle a fait l'objet d'un piratage. Il y a de la musique qui a été diffusée sur ce canal. Certains ont imaginé que cet acte de piratage était en réalité un message de l'annonce de l'invasion, nous dit-on. Mais depuis, les émissions ont repris leur cours. Et cette année encore, les mêmes sons inquiétants et les messages codés subsistent. Et au final, même si elle est catégorisée comme militaire, le mystère plane toujours quant aux finalités de cette radio fantôme. Une radio fantôme. C'est assez étonnant, je ne sais pas. C'est une radio pendant 40 ans qui émet depuis 40 ans. Effectivement, si c'est militaire, ça devrait pouvoir expliquer un petit peu cela. Mais avec du matériel d'époque, finalement, ça fonctionne bien. Hein. on pourrait voir ça. Si c'est possible. Alors, je vais essayer de voir si on peut récupérer le bruit. On va finir cette émission avec le bruit que l'on pourrait éventuellement. J'espère que je vais pouvoir le trouver. D'ici là, comme c'est la fin de cette émission, parce que je ne suis pas certain de pouvoir. Je tente, j'essaye de voir. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on écoute dans cette radio depuis 40 ans. Ça nous change de graphite, hein, quand même. Hein. C'est peut-être leur alimenteur fantôme, à eux. Oui, c'est pas nécessairement agréable. Hein. Mais voilà. Voilà, c'est ça qu'on écoute, hein, une espèce de grésillement, des bourdonnements, et puis apparemment des prénoms qui sont... Ça fait peur, en fait. Oui, Olga. Bon, c'est peut-être Olga. Allez savoir. Allez, j'éteins ça parce que c'est effrayant. Mais voilà. Vous pouvez regarder sur le site Prium, Prium. Comme ça, vous pourrez en savoir un petit peu plus sur cette radio, ce mystère de cette station radio qui énumère des prénoms en russe depuis plus de 40 ans. Voilà. Ce sera la dernière information que nous évoquerons dans cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. On terminera avec un sujet sur la radio, la boucle est bouclée quelque part et je trouve que c'est pas mal. Je vous remercie de votre fidélité tout au long de cette saison. Pour toutes les semaines, vous nous écoutez sur l'antenne de Graphite, 94.9 sur la bande FM, graphite.net bien sûr sur Internet. Tous les samedis, on essayait de lire la revue de presse de l'actualité scientifique Et on n'a pas arrêté cette année de parler de plein de sujets. C'était vraiment passionnant. On continuera, bien sûr, je l'espère, avec vous. On se retrouve sur l'antenne de Graphite à la rentrée de septembre. Je n'ai pas la date précise en tête parce que je n'ai pas pris mon calendrier, mais début septembre, on continuera, bien sûr, à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. D'ici là, bien sûr, je ne peux que vous inciter à lire les sites internet très bien faits de vulgarisation scientifique, de lire les revues également, qui sont assez intéressantes, de visiter des musées. Si vous allez en vacances où vous allez trouver un musée scientifique à côté, ça peut être intéressant en famille de visiter ce musée. Il y a pas mal encore d'expositions qui sont proposées. Si vous restez sur Paris, eh bien, vous avez les Jeux Olympiques, mais vous avez aussi pas mal de musées scientifiques, la Cité des Sciences, le Palais de la Découverte, je crois qu'apparemment il a réouvert, donc ça pourrait être vraiment intéressant, le musée du Bourget, enfin toutes ces choses-là, tous ces lieux vraiment intéressants qui vous apprennent pas mal de choses d'un point de vue scientifique. Et puis, nous, tous les samedis, on essayait d'apporter une petite graine comme ça et de nous informer de ce qui se passe au niveau de l'actualité scientifique. Merci à la direction de Graphite qui me permet depuis 2008, maintenant 2008, là ça ne nous rajeunit pas, ça me permet d'animer cette émission et c'est vraiment un vrai privilège de pouvoir animer ces émissions avec une totale liberté évidemment éditoriale parce que je suis à la fois, j'allais dire, rédacteur en chef, réalisateur, j'appuie sur tous les boutons, c'est totalement passionnant. Je suis pas toujours efficace, j'en suis désolé, des fois ça bug un peu, mais c'est pas grave. C'est la magie de la radio et c'est la magie du direct. Je vous remercie de votre fidélité depuis toutes ces années. Je vous souhaite de passer un très bon été. Quoi que vous fassiez, faites attention à vous, prenez soin de vous, bien évidemment. Et on se retrouve, pour la rentrée début septembre, pour continuer à nous informer de la science et de la technologie, parce que c'est vraiment fascinant. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.